Tu nous fais une phrase d'intro?
Oui, ça y est, c'est lancé. Bonjour à tous les deux, merci de m'avoir accordé ce temps pour parler de votre livre et de votre expérience. On va parler aujourd'hui de culture client, d'engagement des collaborateurs, mais avant cela, je vous laisse vous présenter tous les deux, bien sûr, honneur aux dames.
Merci. Bonjour, je suis Caroline Loisel. Je travaille dans les nouvelles technologies et l'accompagnement à la transformation des entreprises depuis un peu plus de 20 ans. Aujourd'hui, j'accompagne à la fois des grandes organisations, qu'elles soient américaines ou françaises, pour concevoir des événements, des formations, des conférences, enfin tout ce qui va pouvoir inspirer et nous accompagner dans la période que nous connaissons aujourd'hui.
D'accord, merci. Et toi, Emmanuel, je te laisse te présenter.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub Institute. Voilà, on pilote depuis 9 ans un think tank digital. Voilà, on va s'occuper d'organiser des conférences connectées sous forme de membership à 120 grandes entreprises sur tout ce qui est un petit peu innovation, transformation digitale et RH.
D'accord. Bah, vous pouvez peut-être nous dire quelques petits mots sur votre livre que j'ai reçu et que j'ai lu, qui est vraiment une vraie bible, à la fois en contenu, en taille, mais également avec des superbes illustrations. Donc, bravo à tous les deux pour ce livre. Est-ce que vous pouvez nous dire juste quelques mots, puis ensuite, on parlera de la diffusion de la culture client, l'engagement des collaborateurs.
Caroline, je t'en prie.
Ouais. En fait, ce qu'on a voulu faire à travers ce livre, parce qu'avec Emmanuel, on se connaît aussi depuis quelques décennies, c'est transmettre ce que nous, on avait expérimenté depuis la fin des années 90 en travaillant souvent des problématiques liées au digital. Et en fait, on a souvent réalisé dans les différentes organisations, moi j'ai particulièrement été à l'œuvre chez Orange pendant 7 ans, entre 2000 et 2007, que les enjeux autour du digital étaient finalement à la fois organisationnels, à la fois business, bien entendu, et donc éminemment humains. Car derrière chaque problématique du digital se cache un sujet qui s'appelle le partage du pouvoir, l'ego mis à l'épreuve dans ces organisations, puisque le digital met tout le monde, entre guillemets, à la même enseigne, sur la même plateforme, alors qu'auparavant, on était dans un climat, dans un environnement où chacun avait un peu son canal de distribution, son canal de visibilité et son pré carré. Donc voilà ce qu'on a voulu transmettre aussi avec Emmanuel, à travers pas mal d'interviews, et puis surtout notre retour d'expérience à nous sur le terrain, à travers les entreprises qu'on a pu accompagner par le passé et encore aujourd'hui.
Ouais, d'accord. Bah justement, c'est assez intéressant. Il y a un chapitre que j'ai bien aimé dans le livre qui permet en fait d'avoir une entreprise qui veut en fait recréer en fait un nouvel élan dans l'entreprise. En particulier, vous avez fait un focus sur l'importance de la vision, de la culture, des valeurs et de la posture. Donc justement, dans le contexte en fait d'une entreprise qui veut améliorer un peu la culture client, l'expérience client, quels sont un petit peu les leviers que vous recommandez de mettre en place pour remettre un petit peu le client au centre ou changer les valeurs, changer la culture dans une entreprise qui voudrait changer un petit peu les choses et ça passe bien sûr par un changement au niveau des RH.
Ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, on nous parle beaucoup de raison d'être, de purpose, de sens, etc. Puisque, évidemment, quand on est sous pression, en crise, aussi dans un mode de travail qui est un petit peu complexe, le travail à distance, on voit bien que plus que jamais, les gens, un, ont du temps pour se poser malheureusement des fois des questions quand ils ont été au chômage partiel, et deux, se demandent, est-ce que ça a un sens de prendre des risques, d'aller travailler, de me retrouver face à de la clientèle dans certains cas? Est-ce que finalement, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et donc, c'est là où on s'est posé la question avec Caroline de se dire, voilà, c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'entreprises un petit peu afficher des valeurs dans le hall de leur siège ou dans leur rapport annuel. Et on se rend compte que souvent, c'est un peu creux, c'est un peu des valeurs passe-partout. Et c'est là où on s'est vraiment rendu compte que là, évidemment, si on n'a pas une vision claire, surtout en période de changement, ça va être anxiogène pour les collaborateurs, mais finalement aussi pour les clients, parce que si on ne comprend pas où la marque va, où l'entreprise va, qu'est-ce qu'elle défend, quel est son positionnement, et est-ce qu'elle est prête des fois, au-delà de, elle est là pour faire du profit, qu'est-ce qu'elle propose en plus de proposer un produit, de faire du profit, c'était important, mais il fallait aussi que cette vision et ces valeurs, parce qu'on peut avoir la même vision, opérer de manière différente, elle devait vraiment se transformer en posture concrète. Et ça, je te laisse peut-être en dire un mot, Caroline.
Oui, en fait, il y a des choses qui nous ont marquées avec Emmanuel. C'est que Alors, c'est aussi un peu très français, c'est qu'on a toujours été dans une culture de l'excellence. Et l'excellence, parfois, surtout dans des temps où on doit faire face à l'imprévisible et l'incertitude, c'est vraiment pas notre meilleur ami. Donc, c'est en termes de valeurs, notamment, et de culture, hein, c'est passer d'une culture de l'excellence à une culture de l'action, à une culture du petit pas, à une culture de « j'ai droit à l'erreur, j'ai droit à l'essai ». Autre point, c'est on est aussi quand même beaucoup, et alors ça, c'est le passé histoire française de la centralisation et du pouvoir, n'est-ce pas, le roi soleil, etc. Comment on passe d'une culture de l'autorité, de la directive, du cadre assez imposé à une culture qui va un peu plus autoriser à la co-construction, à la co-décision. Voilà, donc on parle beaucoup d'intelligence collective, hein, qui est le terme jargonneux, mais pour dire finalement comment on peut aujourd'hui travailler plus ensemble, mais ce n'est pas juste travailler ensemble et collaborer ensemble, c'est prendre des décisions ensemble sans se dire « ah ben non, mais ça c'est un projet RH ». Je vais donner un exemple concret, portail RH, hein, j'en ai encore entendu parler il y a quelques jours. On va faire un portail RH, super, donc il va y avoir tout dedans, hein, le coffre-fort numérique, l'intranet, la communication, l'événement, les informations financières, etc., etc., les formations, etc. Alors bon, bah minimum comme ça, on peut se dire ça peut prendre 3 ans ce genre de projet vu le nombre de parties prenantes, hein, entre la direction de la com, la direction forcément de l'expérience qui va vouloir du marketing, qui va vouloir aussi mettre son grain de sel, bien sûr la direction technologique, la direction des RH. Donc soit on se dit on sort un portail et on en a pour 3 ans, ou alors bon minimum 18 mois, soit on se dit bon c'est quoi les 3 premières briques, on va aller interroger nos collaborateurs et on va voir quelles sont les 3 premières briques essentielles pour démarrer une première version qui va sortir dans 6 semaines ou dans 3 mois. Voilà. Donc, se sortir un peu de cette culture qu'on a eue, de cette culture du produit fini, où il y a tout dedans, c'est exhaustif, ça y est, c'est parfait, ça, c'est pour moi le vrai challenge en ce moment.
Donc, ça, c'est la première chose. Ça, c'est déjà avoir des petites victoires. Et ensuite, pour travailler sur des éléments vraiment plus, comment dire, profonds, comme la culture, les valeurs, les postures, comment une entreprise devrait faire ou devrait commencer ? Imaginons que je sois un dirigeant, j'arrive dans une entreprise, je me rends compte en fait qu'il y a une culture, comme tu l'as dit, très la perfection, très orientée produit, process. Et à chaque fois, bah, c'est ce qui compte, c'est ce qu'on fait dans l'entreprise et on n'écoute pas vraiment le client, le marché, etc. Comment un dirigeant commencerait à faire, quelles sont ces 2-3 premières étapes pour réussir à faire changer les choses et dire je veux faire bouger la culture, je veux faire bouger les choses dans l'entreprise. Quelles sont pour toi les 2-3 premières choses?
On pourrait partir de quelque chose d'assez simple, hein, c'est de faire un diagnostic en analysant d'un côté quelles sont, on va dire, les valeurs que renvoie la marque. Donc là, on va aller interroger les clients parce que finalement, ouais, le client, c'est quand même le premier. On peut promettre tout ce qu'on veut ou imaginer tout ce qu'on veut sur soi, le client va nous réveiller. Demandez aussi aux collaborateurs, pour vous, quelles sont les valeurs, mais pratiquées, hein, pas les valeurs proclamées dans l'entreprise, comparées aux valeurs qu'on a aujourd'hui et aux valeurs qu'on voudrait avoir demain. Et quand on fait ce mapping, en fait, on va voir assez rapidement que bah, peut-être qu'on se dit très vertueux, très solidaire, très humain et se rendre compte que la perception des clients, parce que malheureusement, on a peut-être fait une erreur de communication ou on a mal réagi, par exemple, pendant la crise, va nous renvoyer que ce n'est pas du tout le cas. Ou à l'inverse, peut-être que le client a l'impression qu'on est des sympathiques. Nous, on pense qu'on l'est et on va se rendre compte que les collaborateurs nous disent que ce n'est pas du tout ce qu'ils ressentent en interne. Donc, des fois, juste faire un petit benchmarking en prenant 2, 3 ou 4 points de vue et se rendre compte à quel point sur certains des items on a des différences importantes, ça peut être un bon moyen parce que sinon on va vite tomber dans le subjectif, la vision du management, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'une entreprise, ça n'existe pas. En fait, une entreprise, c'est un ensemble de plein de parties. Caroline nous parlait des directions, mais c'est aussi différents collaborateurs, différentes générations, différents sexes, différentes origines sociales et ethniques, et on s'aperçoit, voire différents pays, hein. Des fois, quand on dit une entreprise et que c'est un groupe mondial, on peut avoir des réalités qui n'ont rien à voir entre un bureau de 10 000 personnes à Paris ou à New York, un micro-bureau à Singapour ou à Luxembourg, des cultures différentes. Donc, c'est là où c'est difficile quand on veut faire une culture commune d'une entreprise multi-pays, multi-langue, on va dire, région.
D'accord. Et moi, je rajouterais deux choses.
Oui, vas-y. Donc, l'importance de la symétrie, entre guillemets, des attentions, collaborateur-client, vérifier que la promesse correspond bien à ce que perçoivent les clients et qu'il n'y ait pas donc justement une dette ou une créance, entre guillemets, d'expérience client ou vraiment un dépassage.
Et d'expérience employée.
tout à fait.
Bon, exactement. Et moi, je rajouterais deux choses. Je rajouterais, on n'est pas assez habitué à la culture du changement. On ne sait pas ce que c'est que le changement, et le changement, c'est hyper difficile. Je pourrais d'ailleurs compléter avec un petit lien que je vais vous envoyer, qui est une super vidéo de Fabien Olicard, qui est hyper intéressante et qui explique ô combien le cerveau n'est pas fait pour changer. Et ça, je crois que c'est une culture qu'on doit tous partager ensemble, à tous les niveaux de l'entreprise, aux collaborateurs. De toute façon, on doit changer. Par contre, sachez que ça va être difficile et que notre cerveau humain sait s'adapter, mais qu'au démarrage, le changement, c'est compliqué pour tout le monde. Donc, qu'on remette aussi un peu un point de vulnérabilité là-dessus. Et le deuxième sujet, c'est inspiré d'un proverbe bien connu qui est « le poisson pourrit toujours par la tête ». Donc, si on considère que la tête, n'est-ce pas, est représentée par le management, c'est commencer aussi par le management. Nous, on a trop souvent vu des formations où on arrive pour l'accompagnement à la transformation digitale, il n'y a pas forcément de manager dans les équipes. Et puis finalement, ce qu'on va être amené à dire, et puis des sujets qu'on va partager avec les collaborateurs, vont assez vite arriver à « mais moi, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, dans mon entreprise, par rapport à des process trop lourds, par rapport à des circuits de décision de minimum 7 échelons, tout ce que vous dites, c'est impossible. » Donc, commencer par le management, ou alors faire des formations mixtes, hein, on le fait aussi, qui mélangent à la fois les managers et les collaborateurs, parce que c'est aussi évidemment par la tête et donc par les managers que le changement se fera.
D'accord. Ben justement, là, on arrive à ma deuxième question. C'est, on a vu que les managers étaient essentiels, mais on parle aussi des collaborateurs. Comment on va pouvoir augmenter leur engagement? On parle beaucoup d'empowerment, d'employee engagement et de choses comme ça. Comment, en fait, dans un contexte où on est vraiment de crise, de télétravail, où il y a eu quand même des difficultés, certains ont bien mal vécu la partie télétravail. Là, on s'oriente encore une fois sur une période qui est un petit peu complexe, mixte dans les semaines et mois à venir. Comment justement on va pouvoir prendre en compte cette notion d'expérience collaborateur? Comment on va pouvoir améliorer cet engagement de l'entreprise au-delà des valeurs qu'on a vues ensemble, de la culture? Quelles sont un petit peu justement les étapes un petit peu à mettre en place pour se dire, voilà, je veux avoir des collaborateurs qui vont plus s'orienter sur la qualité de service, l'expérience client, etc., etc. Ah, c'est une bonne question. Hein.
Manu, il est parti, on dirait.
Ah, si, non. Donc, clairement, c'est vrai que des fois, on parle aussi avant la crise, on parlait d'épanouissement et de bonheur au travail. On parle d'engagement. Là, on parle beaucoup de sens en ce moment. On a eu la chance avec Caroline d'aller faire une petite session au Danemark, puisque là-bas, ils parlent beaucoup d'épanouissement et de bonheur au travail. Et c'était assez intéressant. Ils nous expliquent là-bas que finalement, ils ont fait beaucoup d'études. Alors, en dessous d'un certain niveau de salaire, on va dire c'est le salaire qui compte et aussi la qualité. La qualité de vie au travail, on va dire, hein, si on est vraiment dans un environnement horrible, mal payé. Mais en fait, au-delà d'un certain point, à partir du moment où on est plutôt dans une grande entreprise, qu'on est payé correctement et qu'on a une qualité de vie au travail plutôt sympathique, très vite, c'est pas d'être payé plus qui va motiver les gens. Ça va vraiment être deux choses. Ça va dire la reconnaissance, de nous en tant que personne. Donc déjà, est-ce qu'on est accepté en tant que qui on est, qu'on soit vieux, jeune, gros, de telle origine sociale, est-ce qu'on va être bien intégré, est-ce qu'on est reconnu pour son métier, son expertise, est-ce qu'on est reconnu pour ses efforts? Des fois, la performance ne va pas être géniale, mais en ce moment, on va faire plus d'efforts que d'habitude, et pour sa performance. Donc il y a vraiment cette reconnaissance qui est vraiment importante, et ça va vraiment compter. Et puis après, il y a la qualité des relations. Si je m'entends bien avec mon chef, avec mon équipe, peut-être que entre guillemets ma boîte n'a pas une super réputation, mais si je suis avec une super équipe, si tous les jours ça se passe hyper bien, voilà. À l'inverse, je peux être dans une boîte géniale, si je me retrouve vraiment avec des gens directement à qui je m'entends pas du tout, très vite, je vais être malheureux. Et c'est aussi la reconnaissance par rapport à l'extérieur. Donc là, ça rejoint un peu le marketing. Imaginons que je travaille pour une célèbre firme chimique détestée de tous. Peut-être qu'il y a une super ambiance en interne, mais si effectivement l'image que ça renvoie, c'est que mon employeur est pas bénéfique et pas vertueux pour la société, pour la planète, et que tout le monde n'arrête pas de me reprocher, ça va m'atteindre aussi. Et donc, en période de crise, on voit qu'effectivement, est-ce que au-delà des promesses et des valeurs proclamées, l'entreprise a pris des bonnes actions vers ses salariés, vers ses clients, vers la planète et la société. On a vu certains acteurs, entre autres là de la cosmétique ou du luxe, être très proactifs, réagir tout de suite pour fabriquer des masques, du gel hydroalcoolique, le mettre à disposition des soignants, des salariés. Et ben là, il y a un moment où on passe vraiment de promettre à démontrer. Mmh. Et finalement, c'est là aussi qu'on fait la différence et qu'on crée une fierté d'appartenance.
Et après, je compléterai en disant que dans une situation de crise, c'est aussi le moment parfois de remettre du ciment dans une entreprise. En fait, soit la situation était déjà déplorable d'un point de vue humain dans l'entreprise et là, la crise ne fait qu'exploser et là, on n'a plus le choix que de régler les problèmes. Soit la situation était normale, voire très satisfaisante et ça peut venir recimenter le collectif. J'en veux pour preuve que notamment dans les 2 mois de confinement et encore aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus accepté d'être tolérant. Tolérant de façon générale, même justement par rapport à des choses qui vont être faites de manière plus imparfaite que d'habitude. On progresse, vous voyez, la crise peut nous aider à apprendre un peu l'imperfection. On a aussi eu la place à plus d'émotions. Forcément, le climat faisait globalement, même encore aujourd'hui, même si potentiellement on a moins de malades, moins de décès, on a encore une certaine place à l'émotion, l'acceptation d'être aussi dans ce registre-là. Et puis globalement, plus d'entraide. Si je prends le sujet trivial et non moins structurant, surtout au démarrage de l'utilisation des outils de visio, par exemple, et là, ça va continuer parce que forcément, si on est encore à moitié à distance, il y a des nouveaux outils qui vont se mettre en place pour être plus dans du management de projet, comment on reproduit des expériences de facilitation d'intelligence collective à travers des outils. Donc voilà, l'entraide va être aussi, j'ai envie de dire, obligatoirement dans nos meilleurs amis. Donc après, le sujet, c'est combien de temps ça peut durer et à partir de combien de jours ces nouvelles habitudes vont être ancrées. Alors, contrairement à ce qu'on dit, d'ailleurs, c'est redit dans la vidéo, je pourrais compléter de Fabien Olicard, on dit toujours, d'habitude, c'est 21 jours, vous savez, pour changer une habitude. J'arrête 21 jours de fumer, c'est bon, le 22e jour, je suis sauvée. En fait, ce n'est pas la bonne étude. L'étude historique dit plutôt 66 jours.
Quand il y avait un membre qui était coupé et ça restait encore sensible pendant X semaines.
Oui, et alors donc voilà, donc 66 jours, voilà, hein, donc ça fait quand même un peu plus de 2 mois pour ancrer une nouvelle habitude, puisque comme je vous l'ai dit au début, j'ai un peu démarré par là, nous ne sommes pas des êtres qui aimons le changement. Non, nous n'aimons pas le changement. Alors, toutes les millénaires qui viennent de nous précéder prouve que quand même l'homme sait s'en sortir, hein, parce qu'on a quand même évolué, n'est-ce pas ? Donc, on sait s'adapter. Cependant, la phase d'adaptation au changement peut être très longue. On peut avoir des réticences, des freins, et c'est bien normal. Voilà, donc 66 jours hein, à noter dès que vous commencez à faire un nouvel usage.
Voilà. Et puis, pour faire le pont tu vois, sur l'engagement, c'est vrai que les outils vont aussi avoir leur rôle à jouer. Tu as parlé de la visio, Caroline. Tu vois, on est en train de s'habituer à ces outils-là. Et c'est vrai que là, on voit bien que pour le e-commerce, par exemple, tout doucement, on commence à avoir des marques. Imaginez à faire du live streaming ou du shop streaming. Alors, les Chinois sont plutôt en avance. Mais finalement, on voit bien que si je n'ai pas les bons outils, déjà que je ne suis pas fan du changement, ils vont en plus des bons outils. Et pareil, si je suis un client et qu'on me demande d'acheter différemment et que je n'ai pas les bonnes interfaces, les bons outils pour pouvoir me connecter, et ce n'est pas toujours un manque de volonté du vendeur, ça peut être l'organisation qui n'a pas mis ou déployé les bonnes solutions, ça va être encore pire.
D'accord.
Et ça va être démotivant.
Alors justement, si je reviens à ma question qui était voilà, comment avoir plus d'engagement auprès de mon équipe, je vais me faire comme tout à l'heure, je vais essayer de partir d'un exemple simple. Donc bien sûr, imaginons que je deviens manager d'une équipe au niveau d'une entreprise. Voilà, je récupère une dizaine de personnes. L'équipe était auparavant avec une autre personne, ce n'était pas forcément la motivation grandiose. Vous l'avez parlé tout à l'heure, la notion d'avoir quelqu'un qui va être… peut-être un leader, au moins quelqu'un qui va être là pour motiver les personnes. Quel va être mon plan d'action ? Alors, le premier, je me doute bien, c'est prendre votre livre hein, pour essayer de se concentrer sur ces fameux chapitres essentiels. Mais comment je vais pouvoir redonner un petit peu une nouvelle dynamique et donner une nouvelle énergie à une équipe qui, pour l'instant, a été un petit peu dans le flou et dans l'attente ? Comment je peux, comme ça, mettre en place une nouvelle dynamique de motivation, d'engagement et remettre les personnes sur une nouvelle voie ?
Alors, ne pas oublier hein, que dans cette période de remous, nous sommes avant tout tous des êtres uniques, singuliers avec nos personnalités. Donc nos leviers de motivation et qui vont aussi avec nos leviers de démotivation et de frustration accumulés, si je prends l'exemple que tu prends, vont être particuliers à chacun et différents. Dans une même équipe, même si le manager... Le grand standard, c'est de dire la culture du petit chef, voilà, qui regarde comment sont faites les choses et pas seulement le résultat, donc qui est un petit peu trop sur votre dos, voilà, en général, c'est ce qu'on peut reprocher à son manager. Mais voilà, tout le monde ne va pas être sensible de la même façon. Et puis, bah, pour certaines personnes, certaines vont préférer avoir un cadre considéré comme strict par son collaborateur d'à côté. Donc, le premier exercice, quand même, c'est indépendamment d'une ambiance collective générale, c'est de savoir ce qui motive chaque individu et ce qui est, et nous le savons tous, hein, nous sommes plus prolixes à parler de nos frustrations, n'est-ce pas, que de nos points de satisfaction. Donc, il faut libérer la parole, hein, c'est la fameuse catharsis hein, nécessaire. Donc, je conseillerais déjà d'abord à ce manager de passer par cet exercice de purge.
Ouais. Je pense que c'est vrai qu'on a toujours cette vision du chef qui sait tout, qui doit répondre à tout, un peu historiquement dans nos organisations traditionnelles. Je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement écouter. On s'aperçoit dans beaucoup d'organisations, les gens opérationnels qui ne décident pas, mais savent très bien ce qui va et ce qui ne va pas parce qu'ils sont au contact des clients, ils sont au contact des outils, ils voient très bien ce qu'il y a dans les process qui ne fonctionnent pas, sauf que ce n'est pas eux qui décident la stratégie, voire qui ont le pouvoir de changer les choses. Donc, c'est vrai que j'aurais tendance à dire, moi, je conseillerais au manager d'abord, dans cette phase de catharsis, d'abord d'aller écouter, regarder, prendre ses remontées. Alors, des fois, ça peut être des frustrations, hein, des pain points, mais aussi des fois des suggestions et des idées, et montrer qu'on a entendu ensuite en prenant certains points. Et ce n'est pas faire aveu de faiblesse de dire « j'ai pas les réponses pour tout le monde », de dire « on a identifié ces pain points, trouvons un moyen de bosser dessus ensemble pour associer les gens ». Et je pense qu'à partir du moment, et si on le fait vite via des quick wins, des petites victoires assez rapides, on peut recréer beaucoup de confiance en montrant aux gens justement que pour une fois, on les écoute, pour une fois, on les entend, pour une fois, on les prend en compte. Et demain… Il y a tellement de choses qui bougent tellement vite que si on n'associe pas des gens, alors en interne, mais aussi en externe, des fois des experts, des startups, des sociologues qui viennent un petit peu nous inspirer, on peut plus dire comme on est dans un monde instable, je sais, je connais et je vais vous expliquer comment le faire, je vais vérifier que vous le faisiez. C'est plutôt, je vous donne la permission de tester des choses et des fois de vous tromper. Je suis là pour débloquer les situations, vous trouver des moyens, aller chercher des réponses ailleurs. Mais c'est plus moi forcément le chef sachant qui va vous dire quoi faire et vous surveiller, vous taper dessus si vous dépassez du trait.
D'accord.
Donc, et puis,
si je résume, après, je te laisserai ajouter. C'est première chose, identifier les profils psychologiques, sans doute avec une gestion des couleurs, les rouges, les verts, les bleus et les jaunes, pour savoir un petit peu ce qui les fera réagir et comment on va pouvoir les gérer. Comme tu l'as dit, chacun est une personnalité avec plus ou moins ses couleurs. Deuxième chose, l'écoute et savoir un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas, et laisser les gens, comme tu l'as dit, vider leur sac et partir en fait de ces bonnes idées, de ces bonnes pratiques pour faire des quick wins avec un plan d'action rapide et essayer de leur donner un petit peu de l'autonomie et laisser le droit à une culture de l'erreur, en tout cas de l'essai, et qu'il faut essayer et être moins sur le comment que sur le résultat, laisser les gens trouver le résultat. Si c'est les cinq petites choses. Alors, je te laisse compléter juste après.
Oui, donc effectivement, c'est passé de la culture du moyen à la culture du résultat. Donc, laisser les moyens. Il y a une très belle citation d'Antoine de Saint-Exupéry là-dessus. Hein. C'est comment on crée le désir de la mère sans dire à ses coéquipiers comment faire. Hein. Voilà, donc ça, c'est laisser effectivement cette liberté-là. Et je rajouterais, dans le cadre de l'exemple que tu cites, créer un momentum, comme on disait dans la pub et comme on le dit toujours. Et puis, il y a un petit proverbe, hein, je ne sais plus si c'est Chateaubriand qui dit « on n'a jamais deux occasions de faire une première bonne impression ». Donc, je pense que le rituel, ça, c'est peut-être ce dont on manque en entreprise. Alors, soit on a les rituels dont on ne peut plus, c'est-à-dire la réunion hebdomadaire qui ne sert à rien, qui dure 2 heures, où chacun parle en silo de son truc. Bon, bah ça, ce rituel, on pourrait se dire comment on peut l'optimiser, le raccourcir et le rendre plus efficient. Bon, ça, c'est parenthèse. Mais un rituel de lancement, alors, parce que pareil, on est tout en silo sur tout. Donc, soit on fait un team building, soit on fait un séminaire de rentrée stratégique, on travaille, on réfléchit, etc. Et puis bon, au mieux, le soir, il y aura une petite soirée où on pourra un peu se détendre. Mais ce qui sera intéressant, c'est un, de laisser les équipes co-construire, co-concevoir ce séminaire et que limite, ce soit une surprise pour le manager qui ne tâche rien. Voilà. Donc, il donne peut-être quand même une enveloppe budgétaire, bien sûr. On est d'accord à peu près sur la date et le temps. Voilà, ça, c'est juste les informations, on va dire, pratico-pratiques. Et ensuite, il laisse à l'équipe le rôle de se dire qu'est-ce qui est important de faire dans ce moment qu'on va s'accorder. Voilà. Ne pas l'appeler séminaire, ne pas l'appeler team building. Voilà, c'est un moment de lancement de cette, j'ai envie de dire, nouvelle équipe. Et à la fois mixer dedans, justement, des choses à la fois très collectives, mais qui, finalement, je ne sais pas, par exemple, se mettre à la boxe, voilà, avoir une initiation à la boxe pour tester son esprit de combativité, se mettre à l'escalade, par exemple, on va dans un bloc. Vous savez que la première chose qu'on apprend quand on va dans un bloc, c'est apprendre à chuter.
Oui.
C'est quand même intéressant. Vous rentrez dans un bloc aujourd'hui, vous êtes un particulier, vous avez forcément une initiation d'une demi-heure, vous venez avec vos chaussures, vous pouvez les louer. C'est des petits blocs, vous avez des petits murs de 4 mètres, hein. Je ne vous parle pas, il n'y a pas de corde, etc. Vous pouvez le faire tout seul en indépendant. Par contre, on vous dit, vous avez 30 minutes. Et pendant 30 minutes, l'initiation, elle vous fait passer un seul message. Monter, ça vous savez faire, c'est bon, hein, pas de problème. Par contre, je vais vous apprendre à chuter parce que ça, c'est important. Voilà, donc c'est des idées d'activité qui sortent un peu peut-être du commun, vous voyez, de ce qu'on peut faire et qui viennent en même temps faire passer des messages structurants pour la période.
Oui, tout à fait. C'est comme, j'aime bien cette notion de moment puisque ça me rappelle le livre de Chip et Dan Heath qui s'appelle « Ces moments qui comptent » et qui indique justement comment, à la fois en termes de ressources humaines ou à la fois en termes de clients ou à la fois même à titre personnel, il faut créer un moment afin d'avoir ce « avant », après,
exactement.
Et que ce changement de poste, ce changement de paradigme cette évolution est vraiment un début et une fin et qu'on se dit « Ah, il y a quelque chose de nouveau qui vient de se passer ». Et comme tu as dit, exactement. Sortir du quotidien, du train-train et le fait de laisser les gens créer eux-mêmes et leur donner l'autonomie, c'est vrai que c'est un excellent sens.
Et là, il y a une excellente analogie que je peux faire, hein, qui est déménagement, emménagement. Quand vous déménagez à titre privé, vous avez besoin de ritualiser. Parce qu'un déménagement, c'est aussi une période de changement profond, hein. Vous savez qu'après un deuil, c'est la deuxième raison de stress dans les études en France, c'est un déménagement. Donc, un déménagement, comment vous ritualisez la fin de vie, d'hébergement dans un lieu. Voilà. Donc, je pense que quand on fait des analogies comme ça, en plus avec des choses très privées que tout le monde a à peu près traversées, on comprend que le changement dans une entreprise, ce n'est pas juste une déclaration, ce n'est pas juste « voilà où on va maintenant ». Ben non, parce qu'avant de « voilà où on va », c'est d'où on part, avec qui on part et comment on part. Quoi. Voilà.
D'accord. Ben, c'est vrai que c'est une excellente analogie. Alors, justement, le mot de la fin, puisque là, on arrive à la fin de notre petite demi-heure d'interview, je voulais savoir s'il y a une raison ou une bonne idée, une bonne pratique à retenir du livre qui inciterait nos auditeurs à acheter votre livre. Alors, quelle serait-elle si je me dis, tiens, pourquoi moi, manager dans une équipe, ou directeur des ressources humaines, même directeur général ou membre du CODIR, quel intérêt et quel bénéfice je vais trouver dans ce livre et qu'est-ce que ça va m'apporter à moi à titre personnel? Bonne question.
Un truc. Manu, je te laisse commencer.
Un truc, ce serait juste de dire qu'il y a 12 chapitres et que c'est un petit peu les 12 chantiers d'Hercule, du DRH, du manager et de la direction de la transo. Donc, c'est aussi d'expliquer qu'une transo au niveau humain, organisation et culturel ou leadership, ça ne se fait pas tout seul. C'est quand même, on voit bien que souvent, ça va être impulsé par une direction de la transo qui va vite se retrouver bloquée. Il va falloir impliquer les RH. Et si derrière, il n'y a pas de soutien du top et du middle management. Et donc là, ça leur permet quand même de les éclairer un peu sur les 12 chantiers clés en ce moment entre l'intelligence émotionnelle, l'agilité, la collaboration, enfin un peu tout ce qui est illustré tout ça avec des témoignages, des arguments, enfin vraiment pour les aider à c'est jamais simple en marketing, on a cette chance d'avoir les Cannes Lions, d'avoir beaucoup de festivals, d'awards, de campagnes, on voit beaucoup ce qui se fait ailleurs, enfin en tout cas on ne sait pas comment ça s'est fabriqué mais on voit le résultat. C'est vrai qu'en RH, en management, c'est beaucoup plus secret, des fois c'est plus complexe de savoir ce qui se fait aussi, en termes de benchmark benchmark. Peut-être, Caroline, tu peux parler aussi de l'exemple du Destroy Dev, parce qu'on pense souvent à ajouter des choses en innovation.
Mais... Oui, c'est vrai. Alors, en exemple, c'est le Destroy Dev, mais c'est un peu ce que je disais avec mon histoire de déménagement, emménagement. Hein. C'est le déménagement, en fait, c'est aussi l'idée de se séparer de certaines choses. Hein, quand on déménage, qu'on fait ses cartons, qu'on n'a pas envie d'en faire 60 ou 40, on fait le tri. Voilà. Et puis, il y a des trucs qu'on va arrêter d'utiliser, il y a des choses qu'on va, après qu'on va donner, etc. Peu importe. Donc le Destroy Day, c'est dans une entreprise, avant de se dire qu'on va changer, c'est prendre l'état des lieux et se dire, mais en fait, il y a peut-être 20% du temps là, qu'on passe à faire des choses pas forcément utiles, voilà. Des reportings, par exemple, des réunions qui durent trop longtemps, par exemple, au hasard, vraiment au hasard des exemples, comment on peut réduire ces charges, voire les supprimer, ou alors les automatiser. C'est aussi une bonne façon de voir la chose. Je rajouterais aussi sur la question de pourquoi. En fait, tout comme les collaborateurs sont singuliers, Emmanuel et moi sont singuliers. Je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup d'auteurs aujourd'hui qui viennent du digital et qui s'autorisent à écrire un livre sur la RH et le management. Il y a évidemment le sérail, le clan des personnes issues des RH, ceux qui ont eu un parcours avec des hautes responsabilités managériales. Ce qui fait notre singularité, c'est que quand on vient de la culture du digital, comme Emmanuel et moi, on a une culture du pragmatisme à toute épreuve, de l'action. Voilà. Parce que, en fait, on a appris, nous, nos métiers sur le tas. Hein. En 97, il n'y avait pas de formation en digital. Donc, et autant dire que le métier du digital, ça prend un peu tous les jours, vu que des changements, il y en a quand même un paquet depuis 20 ans. Donc, en fait, on a forcément transmis beaucoup de nous dans cet ouvrage. Et notamment, voilà, c'est cette culture de l'action, du pragmatisme et des petits pas. Donc, à la fin de chaque chapitre, vous avez fait cinq actions possibles. Et ce qui rend aussi le livre assez pragmatique, c'est évidemment tout ce qui est interview. On a plus d'une trentaine d'interviews et on a vraiment orienté les interviews très pratico-pratiques. J'en veux pour preuve, par exemple, l'interview d'Alexandre Collinet du Bon Coin qui nous partage vraiment ce qui a été mis en place dans leur entreprise d'un point de vue justement intelligence collective. Le Roi Merlin aussi, qui est un très beau modèle et qui n'a pas attendu la vague du digital pour faire sa vision en intelligence collective. Ils le font déjà depuis des décennies. Voilà, donc il y a plusieurs vraiment exemples très concrets. Donc, il y a vraiment de quoi être inspiré et encouragé, car il faut beaucoup de courage. On n'a pas encore prononcé le mot. Au-delà de l'audace, il faut beaucoup de courage pour accompagner le changement et pour changer.
Merci à tous les deux. Et ça nous a vraiment donné très, très envie de lire ce livre que vous pourrez trouver donc à la FNAC, dans les librairies, sur Amazon, etc., etc. Merci à tous. Alors, je vous laisse peut-être rappeler une dernière fois le titre et bien sûr les deux auteurs pour ceux qui nous écoutent actuellement.
Donc, c'est le guide du futur des RH et du management par Emmanuel Vivier
et Caroline Loisel.
Merci à tous les deux.
Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.